Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Fanny Kaplan, hominine de la lignée des protivotsariens.
Confins lodomériens.
Lorsque la République des Deux Nations, la Pologne et le duché de Lituanie se disloquent sous les coups de boutoir de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse à la fin du XVIIIe siècle après J.C., ces fragments sont intégrés dans des empires régionaux, la Russie étend son territoire vers l'ouest et incorpore de fait les différentes populations qui s'y trouvent. Celles-ci sont essentiellement slavophones, polonais et petits russes, et des germanophones, allemands et yiddish, généralement adeptes des religions christiennes, à l'exception des yiddishophones moïsiens. Alors que jusqu'ici, les hominines moïsiens étaient peu nombreux dans l'Empire russe, cantonnés dans quelques villes, et elles deviennent de fait une part importante de la population de ce nouveau Far West grand russe, et représentent environ 5 millions de personnes, soit la plus grande concentration de moïsiens en Europe. S'y ajoutent aussi les populations yiddish de Galicie et de Moldavie, dont les parties orientales sont intégrées à la Russie. Afin de limiter l'implantation de moïsiens sur tout le territoire russe, les autorités tsaristes créent en 1791 la zone de résidence, dans laquelle elles sont contraintes de vivre. Interdiction est faite pour elles de s'installer dans les grands centres urbains de la zone de résidence, tels Kiev, Yalta ou Sébastopol, et seules Odessa et Kisinau leur sont permises. Seules de rares exceptions sont autorisées. Dans l'ensemble de la zone, les violences sporadiques à l'encontre des moïsiens se soldent par la destruction de villages, l'expulsion d'hominines ou leur mise à mort, lors de lynchages collectifs. Le niveau de violence physique et les dégâts matériels sont tels que le terme russe pogrom, piller, devient synonyme internationalement utilisé pour nommer les violences à l'encontre des moïsiens, mâles ou femelles. Quelques décennies avant le goulag, de multiples langues empruntent à la langue russe son imaginaire répressif. Les raisons exactes de ces déchaînements violents sont floues. Elles puisent dans l'imaginaire chrétien qui reproche aux moïsiens de ne pas être chrétiens et leur attribue tous les malheurs du monde. Pour autant, cette haine contre les moïsiens n'est pas l'apanage de la Russie, car l'antisémitisme est un fumier prospère dans l'ensemble des mondes chrétiens et mahométiens. L'antijudaïsme chrétien est un conglomérat d'arguments théologico-politiques qui justifie les mauvais traitements, la ségrégation ou les meurtres de moïsiens, au prétexte qu'ils auraient tué une personne qui n'a sans doute jamais existé, Jésus, aka Christ. L'antisémitisme est la version moderne de cet antijudaïsme débarrassé de références religieuses. Les lois de mai 1882 stipulent que les moïsiens doivent quitter les zones rurales et les villes de moins de 10 000 habitants. Des quotas restrictifs sont mis en place pour l'accès aux études secondaires et universitaires, et à certaines professions. Il leur est interdit de voter ou de se présenter à des élections communales. Dans ce contexte, les pogroms anti-moïsiens s'intensifient entre 1881 et 1884, au sud de la zone, lors desquels les villages sont détruits et des milliers de personnes assassinées. La ségrégation, les violences et la misère pousseront plus d'1,5 million de moïsiens de la zone à chercher refuge aux États-Unis d'Amérique et, dans une moindre mesure, en Argentine pendant les décennies suivantes. La zone de résidence n'est supprimée qu'en 1917.
Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risque d'arriver.
Quoi donc?
Que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste? Moi, raciste, Salomon, raciste! Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu pâlot, tu trouves pas? Avec ce petit bouton.
Et son cheveu sur la langue?
Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde.
Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif? Comment, Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh!
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin.
Mais il est pas juif.
Ben si.
Mais pas toute votre famille.
Si.
Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
Après avoir été intégré au royaume de Pologne, puis disputé entre celui-ci et le royaume de Lituanie, la principauté de Lodomérie est finalement absorbée lors de l'union des deux royaumes à la fin du XVIe siècle. Jusqu'en 1797, le territoire de l'ancienne principauté est une province de cette République des deux nations, avant de passer sous domination russe. Située dans le nord-ouest de l'actuelle Ukraine, la région est une vaste zone plate et boisée, parsemée de marécages. Elle est alors peuplée d'un peu plus de 2 millions d'hominines, dont 70% sont des slavophones petits russes et chrétiens, 15% de yiddishophones moïsiens, 6% de slavophones polonais et 5% de germanophones chrétiens, elles eux aussi. Les centres urbains les plus importants sont Kovel, Lutsk, Rivne ou encore Volodymyr, dont la province tire son nom, pour n'en citer que quelques-uns. Avec plus de 40 000 hominines mâles et femelles, Kovel est le plus grand d'entre eux. Dès son intégration dans la Russie, la ville est raccordée à l'immense réseau ferré qui se monte progressivement entre les régions de l'Empire. Elle devient le nœud ferroviaire du nord-ouest ukrainien, d'où partent 6 lignes, la connectant ainsi directement à Lublin et Varsovie en Pologne, vers le nord et au réseau ferré vers le sud jusqu'à la mer Noire.
On n'a pas assez de salive, ni d'argent, ni de bonheur, ni de vie, ni de force. Presque mort. Tout ce qui n'attend rien, presque mort. Comme suie et poussière, comme bruine. Arthur Lundqvist, Viderbe. Cité à l'entrée sursis dans F. Merjanov, Analecte de rien.
Feiga Aimovna Reutmann naît dans un village de la région de Kovel, dans une famille de Moïsiens pratiquants composée de son père Haïm Reutmann, professeur dans une école, de sa mère dont on ne connaît pas le nom, de 4 frères et 3 sœurs. Sa date de naissance n'est pas certaine. La plupart des sources mentionnent 1890, mais selon le journal anarchiste Bourevetchnik, oiseau tempête en russe, elle est condamnée en 1906 à l'âge de 19 ans. Ce que confirment 2 autres sources. Son nom de famille n'est pas plus sûr. Il est parfois noté Reutblatt. À part ces quelques détails biographiques, rien n'est connu de sa jeunesse.
conglomérat anti-tsarien.
L'empire tsariste doit faire face à de très fortes contestations sociales et politiques. L'absolutisme du tsar, le servage et la misère paysanne, ou les conditions de travail dans le monde ouvrier urbain, sont autant de points d'accroche pour, au minimum, revendiquer plus de droits ou pour réclamer un changement de régime politique. La seconde moitié du XIXe siècle est une période d'effervescence révolutionnaire qui culmine le 13 mars 1881 avec l'assassinat du tsar Alexandre II par le groupe Volonté du Peuple. S'inspirant des écrits de Alexander Herzen et Nikolaï Tchernychevski, la mouvance populiste émerge dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le programme est simple : renverser la dictature et donner le pouvoir au peuple. Les populistes misent leur espoir sur les communautés villageoises et paysannes censées être la base de l'organisation de la société socialiste à venir. Terre et Liberté, le premier groupe clandestin, apparaît en 1876. Il éclate en deux tendances en 1879 sur la question de la violence politique. Après 6 tentatives échouées, Volonté du Peuple parvient à tuer le tsar Alexandre II en 1881. Malgré la féroce répression et de timides tentatives de réforme, les oppositions au pouvoir tsariste se structurent autour de différents choix tactiques et approches théoriques qui se diffusent plus largement parmi la population. D'un côté, les marxistes. De l'autre, les socialistes révolutionnaires et les anarchistes. Si les premiers ne suscitent aucun intérêt protivophile, les deux autres tendances du mouvement révolutionnaire en Russie offrent des réflexions plus complexes sur les critiques et les méthodes de lutte contre le pouvoir en place, ainsi que sur leur vision même du pouvoir. Les marxistes sont les hominines s'inspirant des écrits et analyses de l'écrivain anti-poète Karl Marx, et, pour la plupart d'entre elles, de son approche autoritaire de la politique et de la révolution. Le marxisme est un foisonnement de pratiques et de théories parfois fort éloignées les unes des autres, voire contradictoires. Les essayistes, c'est-à-dire les adeptes du socialisme révolutionnaire, et les anarchistes, divergent sur de nombreux points. Héritiers de la volonté du peuple et du mouvement populiste, les socialistes révolutionnaires s'organisent à partir de 1901 en partis politiques structurés, le Parti Socialiste Révolutionnaire, SR, afin, selon eux, de contribuer au soulèvement du plus grand nombre, les paysans, et se dote d'une cellule clandestine chargée de commettre des attentats contre des figures du régime tsariste. Active de 1902 à 1911, l'organisation de combat est responsable de la mise en œuvre des actions clandestines et des assassinats politiques. Composée seulement de moins d'une centaine d'hominines, elle est autonome et s'autofinance grâce à des braquages. Conformément à leur refus de centralisation, les anarchistes créent plutôt de nombreux groupes autonomes les uns des autres qui agissent indépendamment sur le territoire de l'Empire russe, non pas pour prendre le pouvoir, mais pour le renverser. Comme les essayistes, les anarchistes sont très présents dans les villes et les usines de l'ouest de la Russie et participent à l'agitation sociale grandissante. Les réformes proposées par les autorités tsaristes ne répondent pas aux revendications sociales et les manifestations ouvrières et les grèves sont bien souvent réprimées par l'armée. Même s'ils le divergent sur leur théorie politique, essayistes et anarchistes se retrouvent sur leur volonté de voir aboutir au plus vite le renversement du régime tsariste et l'instauration immédiate d'un pouvoir révolutionnaire. Pour faire face à la répression, il est nécessaire de s'organiser dans la clandestinité pour imprimer journaux et tracts et monter les actions armées contre les représentants du pouvoir central ou du patronat qu'il faut financer par l'argent de braquage. Rapidement, de par ses choix tactiques, le Parti Socialiste Révolutionnaire est confronté à des dissensions internes qui poussent une partie de ses militants, mâles et femelles, à se rapprocher des anarchistes. Sporadiquement, des groupes anarchistes et essayistes organisent ensemble des braquages, des tentatives de libération de prisonniers, des assassinats politiques ou des actions armées. Entre 1900 et 1905, les grèves et les contestations sociales ne cessent de prendre de l'ampleur dans les régions de l'Empire. Les revendications portent sur l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des salaires et la libre organisation en syndicats. Que ce soit lors des révoltes ouvrières dans les centres urbains ou des soulèvements paysans dans les campagnes russes, la réponse violente des autorités cause des milliers de morts et blessés. La répression contre ces hominines en colère est le fait de l'armée régulière, de détachements cosaques ou de milices nationalistes. Entre 1903 et 1906, les pogroms reprennent de plus belle dans la zone de résidence, faisant des milliers de morts et forçant des Moésiens à fuir à l'étranger pour échapper à la mort.
Vous avez aimé les aventures de Rabbi Jacob?
Vous êtes juif? Comment Salomon? Vous êtes juif? Salomon est juif. Oh.
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin.
Mais il est pas juif.
Ben si.
40 ans plus tard, découvrez les nouvelles aventures de Rabbi Jacob.
Vous êtes juif? Comment Salomon? Vous êtes juif? Salomon est juif. Oh.
Chut, parlez moins fort. Et puis vous le répétez à personne, ça craint de nos jours.
L'année 1905 marque un tournant dans les luttes sociales et les contestations politiques vis-à-vis du pouvoir central. La répression sanglante d'une manifestation ouvrière à Saint-Pétersbourg le 22 janvier est le facteur déclenchant de multiples grèves, révoltes et manifestations à travers l'Empire jusqu'en octobre, événement généralement appelé « Révolution de 1905 ». Les groupes essayristes et anarchistes redoublent d'activité en cette année de révolte généralisée. La lutte contre le tsarisme s'intensifie.
L'important, c'est que paraisse une revue clandestine. La police la cherche et ne réussit pas à la trouver. Voilà ce qui frappe le public. Ce qui est écrit dedans n'a pas d'importance. Pour moi, la revue idéale serait celle où il n'y aurait rien. Malheureusement, ce n'est pas possible.
Au cours de cette année, Feiga Reutmann se rapproche des anarchistes de Kiev et d'Odessa. Elle rencontre Viktor Garskyi et rejoint le groupe des anarchistes communistes du Sud dans lequel il est déjà actif. Elle opte alors pour le surnom de Dora. Viktor Garskyi est né en 1888 dans une petite ville de l'actuelle Moldavie. En 1903, il travaille à Chisinau dans une usine, puis en 1905 s'installe à Odessa où il rencontre Feiga Reutmann. Il participe à plusieurs braquages dans le sud de la Russie. En avril 1907, il est le seul survivant d'une petite équipe de braqueurs anarchistes. Arrêté en mai, il est condamné à 12 ans de prison pour sa participation à différents braquages et emprisonné à la prison d'Odessa jusqu'à l'amnistie de 1917. Comme le font des groupes anarchistes du nord-ouest de la Russie, les anarchistes communistes du Sud s'organisent clandestinement pour trouver de l'argent nécessaire au financement de leurs activités de propagande et de leurs actions armées. Comme son nom l'indique, le groupe des anarchistes communistes du Sud est actif dans le Sud de la Russie, approximativement dans le carré constitué d'Odessa, Kiev, Ekaterinoslav et Chisinau. Il est à l'origine de quelques actions armées et de braquages. Hormis de rares exceptions, les hominines mâles et femelles qui y participent ne sont pas clairement identifiées. Dans la même région, le groupe de combat international, fondé à Genève, est actif de 1907 à 1908, date à laquelle 36 de ses membres, mâles et femelles, sont inculpés de plusieurs attentats et attaques à main armée. De quelques années de prison à la peine de mort sont les sentences contre elle. A noter aussi le groupe des anarcho-syndicalistes de Russie méridionale qui voit le jour en 1906 à Odessa sous l'impulsion de Daniil Novomirski. Le syndicalisme prôné par ce groupe est un mélange de conflits sociaux, de violences contre les patrons et de braquages pour financer la propagande. Et est critique de la ligne choisie par les groupes armés anarchistes qualifiés de « suicidaires ». Fort de plusieurs milliers de membres, il ne survit pas à la répression tsariste. En parallèle de la publication de journaux, ces différents groupes sont favorables au terrorisme économique et prônent l'assassinat d'industriels, de contremaîtres, de politiciens, de délateurs ou d'espions infiltrés dans leurs rangs. Essayristes et anarchistes ne se contentent pas de lancer leurs offensives par les mots et les armes, ils tentent aussi de répondre à la répression qui envoie leurs proches en prison ou les tue lors de tentatives d'arrestation. La lutte est acharnée et sanglante.
Bravo.
Ouais, c'est pour tous les mecs au bord du gouffre, tous écrasés dans l'engrenage, frère. Hey.
Je sais que ça fait longtemps que tu penses à tuer des gens, que tu penses à brûler le banc, qui t'a rendu si méfiant, quitte à te faire des innocents. Histoire de passer le temps, je comprends que t'es la rage quand les rappeurs font que se masser le gland. Grande pustule, sens-tu que je tue? Sens-tu que je tue? sang tu tues. T'as du mal à t'imaginer serein dans le futur. Bande sur des tranches plus turques, mais tu rentres plus thunes. Déserte le campus, tu crois pas vraiment qu'un diplôme va rattraper ta vie de môme. Effacer le sang sur le mur, toutes les patates que t'as pris et tous tes points de suture. Quand t'as compris que le monde est à toi, tant que tu suces. Mais c'est pas ton projet, t'as aucun projet. T'es résolu d'avoir des résolutions l'année prochaine. Tu te reconnais dans rien, t'es seul devant leur certitude. De fils de perfide pute, ça donne l'air têtu. Mais t'en as rien à foutre, la vérité c'est ça. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions démentes. Tes buissons géants camouflent plus ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, frelon, shoot un ministre. Trop de corrompus, frère, et foule pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère, et foule pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre.
L'apparition du premier conseil local, soviet en russe, lors des révoltes de 1905 fait tache d'huile à travers l'Empire. Des soviets s'organisent dans les usines, les quartiers, mais aussi dans les villages paysans ou parmi les hominines servant dans l'armée, afin de mener les luttes de manière autonome. Tout en soutenant les soviets, les différents groupes anarchistes clandestins prônent la continuation des actions armées pour intensifier la fragilisation de l'État. Alors que les essayistes préfèrent plutôt miser sur les soviets qui, elles, imaginent être l'embryon d'un futur État révolutionnaire. Les dissensions internes au Parti Socialiste Révolutionnaire sur ces questions tactiques aboutissent à la naissance de l'Union des Socialistes Révolutionnaires Maximalistes. Proches des anarchistes sur leur volonté de continuer à attaquer les structures et les personnalités liées à l'Empire, ces maximalistes n'en restent pas moins des socialistes révolutionnaires pour qui l'État ne doit pas être détruit mais utilisé à des fins révolutionnaires. Moins Narodniki, populiste, que le Parti Socialiste Révolutionnaire, les maximalistes se voient en petits groupes clandestins agissant. Les maximalistes, mâles et femelles, multiplient les actions armées contre des intérêts tsaristes et des braquages pour se financer. Ils sont démantelés par la répression à partir de 1907, assassinés ou envoyés au bagne. Quelques braquages, quelques tentatives de libération et plusieurs attentats contre des bâtiments ou des hominines sont menés par des groupes mixtes d'anarchistes, parfois ex-essayistes et de maximalistes. En réponse aux pogroms, quelques pogromistes et responsables militaires sont assassinés.
Impossible de savoir quelles sont les activités de Feiga Reutmann en cette année 1905. Il est parfois fait mention d'une hypothétique participation au braquage d'un magasin d'habillement à Chisinau le 7 décembre 1905 avec un groupe d'anarchistes dont Victor Garskyi.
Horizon sibérien.
Avec des passeports au nom de Feiga Kaplan, né à Kiev, et Tom Zelman, de nationalité roumaine, Feiga Reutmann et Victor Garskyi louent le 18 décembre 1906 une chambre au troisième étage d'un hôtel de Kiev, dans la rue Voltinskaya, dans le quartier moïsien de Podol. Certaines sources précisent que le passeport de Feiga Reutmann est celui d'une amie de Kiev. D'autres disent qu'il est possible qu'elle ait changé de nom à la suite de son mariage avec Max Kaplan, un anarchiste. Il y a effectivement une tradition révolutionnaire d'utiliser parfois le mariage pour fuir l'environnement familial, ou déjouer un temps la surveillance policière. Avec Samuel Belin, Polina Krasnochekova et quelques autres anarchistes, le petit groupe se prépare à tuer Vladimir Soukhomlinov, le gouverneur général de Kiev, de Podolie et de Lodomérie, pour se venger d'arrestations récentes contre des anarchistes de Kiev. Malheureusement, le 22 décembre, alors qu'elles sont en train de réaliser l'engin explosif, celui-ci explose dans la chambre. À l'exception de Feiga Reutemann, incapable de fuir à cause de ses blessures, les autres parviennent à s'enfuir avec des blessures plus légères. Un pistolet lui est laissé, peut-être pour lui donner la possibilité de se tuer plutôt que d'être arrêté. Incapable de bouger et gravement touchée aux yeux, elle est finalement arrêtée.
On regrette toujours pour rien, étant donné qu'on ne peut regretter qu'après. Régent du charme, la vallée des avalés, cité à l'entrée La Palissade dans F. Merjanov, Analecte de rien.
Laissée pour morte par ses complices en fuite, celle qui est dorénavant connue sous le nom de Fania Kaplan est jugée et condamnée à la prison à vie pour la mort d'une femme de ménage de l'hôtel. Elle refuse évidemment de dénoncer ses compagnons. En raison de sa minorité, sa sentence est commuée en prison à vie dans un camp d'internement sibérien. Presque aveugle et encore sous le coup de ses blessures aux jambes, elle est envoyée dans un premier temps à la prison d'Odessa, en attendant avec d'autres anarchistes son transfert vers des horizons sibériens. En décembre 1907, elle est au camp d'internement de Nerchinks, en Sibérie, dans la prison de Maltsei réservée aux hominines femelles. De 1826 à 1917, le Katorga de Nerchinks est un vaste ensemble pénitentiaire, composé de plusieurs prisons, chacune dédiée à l'exploitation de mines d'or, d'argent ou de plomb. Nerchinks est située dans la région sibérienne de Transbaïkalie, près du fleuve Amour. Elle y reste 4 années et y côtoie d'autres anarchistes, des démocrates et des socialistes révolutionnaires. Les premières années d'enfermement sont difficiles, car elle souffre encore de ses blessures et de graves maux de tête et sa vue ne revient pas. Elle tente même de mettre fin à ses jours, mais est prise en charge par les autres prisonnières. Les prisonnières s'organisent collectivement pour la nourriture, pour échanger des livres ou pour faire des discussions. Alors qu'il vient de se faire arrêter lors d'un braquage et condamné à 12 ans de prison, Victor Garskyi apprend en mai 1908 que Feiga Reutemann a survécu. Il envoie une lettre au ministère de la Justice à Moscou dans laquelle il tente de la disculper en s'attribuant la responsabilité de l'explosion de décembre 1906. Elle reste sans suite.
En 1909, Feiga Reutemann, Fanny Kaplan, semble aller mieux, mais reste quasi aveugle. Elle apprend le braille et regagne petit à petit de l'autonomie, selon son amie Vera Bobrova-Torozava. Elle est transférée en 1912 à Akatsui, une autre prison de Nerchinsk, où sont regroupées une soixantaine de prisonnières, dont une majorité sont des essayistes. Elle y rencontre la socialiste révolutionnaire Maria Spiridonovna. Selon ce que rapporte l'historien Semyon Liandres, Fania Kaplan se considère alors, selon ses propres mots, socialiste sans affiliation particulière à un parti. Est-ce à dire anarchiste ? La confusion est possible, car dans le mouvement révolutionnaire, socialistes et anarchistes sont parfois utilisés comme des synonymes. L'ambiguïté demeure. Ses pupilles réagissant de nouveau à la lumière, en août 1912, un docteur de la prison obtient du gouverneur militaire de la région l'autorisation de transférer Fania Kaplan vers l'hôpital de Chita, dans le sud-est de la Sibérie, près du lac Baïkal, pour qu'elle soit opérée. En 1913, elle est envoyée à l'hôpital d'Irkoutsk pour recevoir un traitement complémentaire post-opératoire. Celui-ci terminé, elle retourne à la prison d'Akatui. Sa peine est commuée en 20 ans de prison à l'occasion d'une amnistie générale décrétée par le tsar. Après le renversement du tsar par un conglomérat anti-tsarien, de marxistes, de socialistes révolutionnaires et d'anarchistes en février 1917, tous les prisonniers politiques, mâles et femelles, sont libérés.
Пані Каплан, це ваше справжнє ім'я?
Краще вбий мене, Фаню.
На одній лінії два об'єкти. І ви намагаєтесь дивитись на дальній і ближчий.
Стріляли.
Ти впевнений, що це вона?
Лікаря.
А хто його знає?
Володимир, що вам буде?
Що ж нею тепер буде?
Вам не можна.
Ти знаєш?
Це вирішить ЦК!
Обережно розплющіть очі.
À Avec les autres prisonnières, elle est envoyée à Tchita, dans l'attente d'un retour organisé vers la Russie occidentale. Fania Kaplan arrive à Moscou en avril 1917. Ses parents ont émigré vers les États-Unis d'Amérique alors qu'elle était en Sibérie. Elle s'installe dans un appartement avec Anne Pigitte et y vit environ un mois avant de partir en Crimée, suivre un traitement pour sa vue dans un hôpital dédié aux anciens prisonniers politiques. Dmitri Ulyanov, le jeune frère de Lénine, est à l'initiative de ce projet, dans lequel il est lui-même médecin. La fiction cinématographique « My Grandmother, Famine Kaplan », réalisée en 2016 par l'Ukrainienne Olena Demianenko, brode une histoire romantique entre Dmitri Ulyanov et Fania Kaplan. Fania Kaplan est opérée avec succès en juillet. Lors de son séjour criméen, elle participe à des cours pour ouvriers. Après 2 mois de Tchernomorien, elle part pour Kharkov, afin d'être à nouveau opérée. C'est à cette occasion qu'elle revoit Victor Graskiy. Mais les retrouvailles ne sont pas très heureuses, car depuis leur dernière rencontre en 1906, l'anarchiste est devenu bolcheviste, la pire espèce des marxistes. Les bolchevistes, majoritaires, sont une des composantes du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, POSDR. Marxiste qui se scinde en 1903 entre le et les menchevistes, minoritaires. Ces derniers, opposés au coup d'État de 1917, seront pourchassés et anéantis par les bolchevistes dans les années suivantes. Jusqu'en 1917, les bolchevistes sont beaucoup moins nombreux que les socialistes révolutionnaires et les menchevistes. Ils font un coup d'État en octobre 1917, pour être les uniques meneurs de la révolution de février. Les soviets sont vidés de leur substance et accaparés par les nouveaux maîtres. Place au soviétisme. Les bolchevistes sont soutenus par le Parti socialiste révolutionnaire qui explose entre, pour reprendre leur terminologie, les essayistes de gauche et de droite, les premiers majoritaires soutenant les bolchevistes dans le coup de force d'octobre, les autres le refusant. Les anarchistes sont aussi divisés sur ce qu'il faut penser et attendre de cette reprise en main des soviets. Des choix douloureux se font parmi les anarchistes. Les activités de Fania Kaplan au lendemain du coup d'État bolcheviste d'octobre 1917 sont inconnues. Elle arrive à Moscou fin février, début mars 1918 et s'installe avec Anna Pigitte dans son appartement.
Geste protivo-tsarien.
Les relations entre les bolchevistes et les socialistes révolutionnaires de gauche se dégradent rapidement en février-mars 1918. Après l'échec de janvier pour faire élire l'essayiste Maria Spiridonova à la présidence de l'Assemblée constituante, les bolchevistes, ne supportant pas la contradiction, la dissolvent. Sous les ordres de Vladimir Lénine Ulyanov, le bolcheviste en chef, les bolchevistes s'accaparent tous les pouvoirs. Les essayistes de gauche quittent le gouvernement en mars et accusent leurs alliés de s'écarter de la révolution. Les anarchistes alliés s'éclipsent aussi. Les bolchevistes sont dorénavant seuls à tenir les rênes du nouveau pouvoir post-tsarien. Le lendemain de leur assassinat de l'ambassadeur d'Allemagne, plus de 2000 essayistes de gauche se lancent le 7 juillet 1918 dans une tentative d'insurrection à Moscou. Mais les bolchevistes parviennent à mater le soulèvement. Quelques tentatives dans d'autres villes russes se soldent aussi par leur écrasement. Le Parti socialiste révolutionnaire de gauche est interdit, ses membres et sa presse contraints à la fuite et au silence. Les arrestations s'enchaînent. Plusieurs centaines. Lénine sonne le glas de la révolution. Pour autant, l'affaire n'est pas totalement réglée. aussi bien les forces armées fidèles à l'ancien pouvoir tsariste, les armées paysannes menées par des anarchistes en Ukraine ou les insurrections paysannes que les visées sibériennes de l'aristocrate Ungern Sternberg sont toujours des menaces sérieuses qui fragilisent le pouvoir des bolcheviks. L'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne dite Makhnovichina est une armée paysanne menée par l'anarchiste Nestor Makhno, 1888-1934, qui s'oppose aux tsaristes, aux nationalistes ukrainiens et aux bolchevistes entre 1918 et 1921 en Ukraine. Forte de plusieurs dizaines de milliers de combattants, la Makhnovichina tient tête et tente de mettre en place une organisation libertaire de la société dans les régions qu'elle contrôle. La défaite est militaire. Les anarchistes qui ont refusé de s'allier et de faire confiance aux bolchevistes doivent faire face à une forte répression contre eux. Mais des groupes résistent et d'autres s'organisent clandestinement pour maintenir le processus révolutionnaire hors de contrôle des bolchevistes.
Eh bien oui, je le répète à la face du monde, toute organisation ne profite et ne profitera jamais qu'aux organisateurs. Voilà ce que je veux compter encore avant de mourir. Et tous ceux qui veulent faire de l'hominine la bête d'un troupeau sont des assassins, quels qu'ils soient. Panaïstrati, l'homme qui n'adhère à rien, cité à l'entrée de Beznatchali, dans F. Merjanov, Analecte de rien.
Souriant, comme un boucher qui vient d'égorger le petit veau qu'il trouvait si mignon, Lénine parade. L'ancien tsar et sa famille exécutés depuis juillet 1918, le nouveau tsar se balade. Le 30 août, il est l'invité exceptionnel d'un meeting à l'usine d'armement Mikkelsen, dans la banlieue moscovite, pour y vanter les bienfaits de ses décisions et du coup d'État. Penser le contraire est évidemment contre-révolutionnaire. Et une telle pensée peut mener à la mort ou à l'exil. Elle est comme ça la nouvelle star. À la fin du meeting, dans la soirée, Fania Kaplan s'approche de lui. Elle sort un pistolet et tire à 3 reprises, le blessant à l'épaule et au poumon. Elle parvient à prendre la fuite mais est arrêtée quelques rues plus loin par des ouvriers venus écouter le discours du nouveau tsar. Gravement atteint, le tsar bolcheviste est évacué en urgence. Si tant est que l'on peut leur faire confiance, selon les hominines chargées de l'interroger, elle aurait déclaré.
Mon nom est Fania Kaplan. Aujourd'hui, j'ai tiré sur Lénine. Je l'ai fait de moi-même. Je ne dirai pas de qui j'ai obtenu mon revolver. Je ne donnerai aucun détail. J'étais résolu à tuer Lénine depuis longtemps. Je le considère comme un traître à la Révolution. Je fus exilé à Akatui pour ma participation à une tentative d'assassinat contre un officier tsariste. J'ai passé 11 ans aux travaux forcés. Après la Révolution, j'ai été libéré.
Son geste et ses quelques mots se suffisent à eux-mêmes. L'universalisme d'Akab, Olksar, are bullshit. Deux personnages sont arrêtés, suspectés d'avoir aidé Fania Kaplan, mais sont relâchés rapidement après interrogatoire par des miliciens bolchevistes. N'obtenant rien de plus de Fania Kaplan, qui refuse de collaborer après son geste protivo-tsarien. De la racine slave protive, contre et de tsar, empereur russe. Et sans doute persuadée qu'elle a réellement agi seule, les bolchevistes l'exécutent d'une balle dans la nuque le 3 septembre 1918. Son cadavre est brûlé et ses restes dispersés. Un procès ne sert à rien. Place à Fanny Kaplan, nom sous lequel elle est maintenant internationalement reconnue comme celle qui a tenté de tuer le tsar rouge, Lénine. Même le petit niçois du 2 septembre 1918 en fait sa une. Tous les propos qui lui sont prêtés sont à prendre avec prudence, car ils sont relayés par ses bourreaux et ses quelques témoignages d'hominines prétendant avoir assisté à son arrestation ou à sa mort sont contradictoires. Dans l'archipel du Goulag, Alexandre Soljenitsyn recueille l'histoire de Bertha Gandal, qui raconte que ses deux frères étaient les complices de Fanny Kaplan et qu'ils l'attendaient dans une voiture pour s'échapper après l'assassinat de Lénine. Selon elle, ils sont rapidement tous les deux abattus par les miliciens bolchevistes. Arrivant de Riga peu après, elle-même est arrêtée à Moscou et condamnée à la prison à vie pour une supposée complicité. Elle est la seule à évoquer cela.
Cas prolétarien.
Avec le poumon perforé et la balle proche de la colonne vertébrale, Lénine refuse de quitter la résidence où il est réfugié de crainte d'un nouvel attentat. Mais il est inopérable sur place. Pour la plus grande tristesse des protivo-tsariens, il se remet petit à petit et survit à ses blessures dont il gardera néanmoins des séquelles toute sa vie. Prétextant l'assassinat à Saint-Pétersbourg par le poète Léonid Kanjisser du bolcheviste Moïse Ouritsky, le même jour que la tentative de Fanny Kaplan de le tuer, Lénine et ses partisans décrètent une période de terreur. Rouge, celle-ci. alors même que la direction du Parti Socialiste Révolutionnaire nie toute implication. Léonid Kahn-Gisser et Fanny Kaplan sont dénoncés comme étant des socialistes révolutionnaires. La chasse est lancée contre les essayistes, mâles et femelles, qui, par leur opposition bolcheviste, sont dorénavant tous estampillés de droite. Une partie d'entre elles s'organisent clandestinement et rejoignent les rangs bigarrés des anti-bolchevistes. Jusqu'en 1922, les bolchevistes se lancent dans des offensives sur de multiples fronts, confrontés à la guerre civile qui se déroule en Russie, dans laquelle les armées anarchistes paysannes d'Ukraine et les armées pro-tsaristes sont les plus grosses forces à abattre. Malgré leur résistance, les anarchistes et les essayistes de gauche ou de droite, mâles et femelles, sont pourchassés, arrêtés, emprisonnés et souvent exécutés. Celles qui le peuvent fuient à l'étranger. Les révoltes et les guérillas sont matées sur l'ensemble du territoire. L'histoire retiendra que Lénine a survécu et que les bolchevistes se sont totalement imposés dans les moindres rouages de l'État proclamé révolutionnaire. Fin de la Révolution. Place à la future Union des Républiques Socialistes Soviétiques, URSS. Un air de déjà-vu.
On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la. En URSS l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la.
En juin 1922, s'ouvre à Moscou le procès contre plusieurs dizaines d'essayistes, mâles et femelles, membres de la direction du Parti Socialiste Révolutionnaire, accusés de mener contre-révolutionnaires et responsables de plusieurs insurrections dans le pays. La figure de Fanny Kaplan réapparaît au cours de ce procès. L'intention des bolchevistes est de mettre en relation sa tentative d'assassinat sur Lénine et ses liens avec les essayistes. Pour cela, des bolchevistes ex-essayistes viennent témoigner pour expliquer que les actions de Léonid Kahn-Gisser et Fanny Kaplan ont été commanditées par la direction du Parti Socialiste Révolutionnaire. Rufina Stavitskaya se présente comme une amie de longue date de Fanny Kaplan. Selon elle, toutes deux ont participé au gouvernement anti-bolcheviste mis en place par les socialistes révolutionnaires et pour lequel Fanny Kaplan est employée municipale à Simferopol en Crimée avec un très bon salaire. Le 18 juin 1918, des socialistes révolutionnaires fondent le comité des membres de l'Assemblée constituante et forment un gouvernement anti-bolcheviste à Samara, près de la Volga. Le gouvernement instaure la journée de travail de 8 heures, réactive les conseils dans les usines et autorise les syndicats. La propriété privée est réinstaurée et les usines, banques et entreprises sont restituées à leurs anciens propriétaires. Le gouvernement est militairement écrasé par les bolchevistes en novembre. Le renversement par les bolchevistes de ce gouvernement entraîne la perte de sa situation sociale privilégiée et fait naître en elle son projet protivo-tsarien. Parole de bolcheviste. Tous les liens que Fanny Kaplan a conservés avec d'anciennes prisonnières essayistes sont, pour les bolchevistes, autant de preuves de sa proximité politique avec elle. Quel n'est d'autre proche que les prisonnières avec lesquelles elle a passé plusieurs années est-il si surprenant? Pour un dossier à charge, cela est un faisceau de preuves. Chacune de ses connaissances devient des évidences de son appartenance au Parti Socialiste Révolutionnaire. Qu'elle ait passé des années à côtoyer Maria Spiridonova n'arrange rien. Dans sa biographie, Ekaterina Odiskaya indique que le PSR ne valide pas le projet. Lors de ce procès contre les essayistes, Grigori Semenov, l'un d'entre eux ralliant 1919 aux bolchevistes, vient expliquer que l'action contre Lénine devait se doubler de l'assassinat de Trotsky, un autre dirigeant bolcheviste. Selon lui, Fanny Kaplan était la tireuse, aidée par l'ouvrier Novitskov, chargé de faire le guetteur.
Les bolchévistes inaugurent par ce procès la longue liste de ceux qui, elles, mèneront contre les contre-révolutionnaires, avec pour méthode principale de produire des témoignages sur commande et faire ainsi dire n'importe quoi aux vivants et aux morts afin de justifier des verdicts décidés à l'avance. Si elle n'a pas été inventée par les bolchévistes, la déclaration de Fanny Kaplan, qui se dit favorable à l'Assemblée constituante et l'être toujours, fait taire les objections. L'écriture du scénario bolchéviste se conclut en 1924 avec l'arrestation, après l'avoir piégé, de Boris Savinskov, écrivain, membre du Parti Socialiste Révolutionnaire et de l'Organisation de Combat, sa branche militaire et clandestine. Lors de son procès, il veut bien admettre, comme le lui demandent avec insistance ses juges, qu'il a fourni l'arme à Fanny Kaplan pour qu'elle tue le tsar rouge. Condamné à mort, sa peine est ensuite commuée en 10 ans de prison. Il bénéficie d'un régime particulier où il est maintenu emprisonné dans un espace de 2 pièces avec meubles et bibliothèques, ainsi que la possibilité de recevoir des visites et du courrier. L'année suivante, il est retrouvé mort, mystérieusement défenestré, en bas de sa cellule sans barreaux. La fiction bolchéviste se clôt ainsi. Comme le note l'historien Semyon Liandres, des essayistes réfugiés à l'étranger confirment que Fanny Kaplan n'appartient à aucune organisation et que les textes et mémoires d'anciens essayistes écrits dans les décennies suivantes et qui mentionnent Fanny Kaplan semblent indiquer qu'elles ne la connaissent pas directement et que leurs témoignages sont de seconde main. Pour autant, Yel participe aussi au mythe bolcheviste d'une Fanny Kaplan, socialiste révolutionnaire qui, au fil des décennies, devient même la seule version historique. Pourtant, rien ne le dit, si ce n'est la propagande bolcheviste. Même des sources anarchistes postérieures se basent sur des témoignages d'essayistes ayant mal tourné.
Sage, n'allez pas me maudire, qui suis-je pour vous ? Rien qu'un petit nuage de plein feu. Constantin Balmont, Les contours des rêves.
Les imaginaires ont la vie dure. Malgré sa mort annoncée par des bolchevistes, des rumeurs circulent que Fanny Kaplan est toujours vivante. Quelques hominines témoignent l'avoir croisée dans différents camps de travail sibériens ou lors de transports de prisonniers. Dans l'archipel du Goulag, Alexandre Solzhenitsyn relate même qu'elle a été vue à la prison moscovite de Boutyrka, où elle est chargée de la bibliothèque. Un ancien militaire soviétique témoigne dans les années 1980 que lors d'un voyage réalisé en 1956 en Carélie, des hominines de la région lui montrent une maison d'un village dans laquelle, selon eux, Fanny Kaplan a vécu une vingtaine d'années avant de mourir en 1953. Le russe Constantin Balmont consacre son poème « Lettre K » à Moritz Korandi, Boris Koverda, Leonid Kanjisser et Fanny Kaplan, qui, malgré leurs différences politiques, ont en commun d'avoir tenté d'assassiner un dignitaire bolcheviste. Tel Velimir Klebnikov et sa poésie linguistique, ou Krouchenik, pour qui l'abondance de K dans la langue russe fait dire qu'elle porte en elle la scatologie, aka kaka. Constantin Balmont voit dans la lettre K une représentation lettriste anti-bolcheviste. Bolchevique.
La lettre K m'est chère. Autour d'elle scintillent des perles, qu'éternellement brille la lumière de la couronne pour les combattants Kaplan et Kanegisser. Et que chacun se souvienne, en qui existe l'amour pour la mer, l'honneur dans le regard, ils ont vengé l'honneur bafoué. Les vaillants, Koverda et Konradi.
Macédoine de rien.
Pour la protivophilie, qui inlassablement mène ses recherches autour de F. Merjanov, la Macédoine est une composante essentielle de l'univers merjanovien, incontournable. Après ses conclusions sur la salade niçoise et la salade Chopska, la protivophilie s'ouvre à la salade russe, pour enrichir encore plus ses réflexions autour de la naissance de la macédoine de légumes chez les hominines. Mais pas seulement. Elle s'interroge aussi sur la recette bolcheviste de la salade russe, qui permet de faire de Fanny Kaplan autre chose que ce qu'elle est. La gastronomie et la justice sont de puissants procédés chimiques de transformation. Aucun mot direct ne peut lui être attribué avec certitude, car tout s'émane de celle qui l'arrête. La torture ou la tue. La falsification est une vieille méthode policière, qui fonctionne d'ailleurs encore très bien de nos jours, un peu partout. La valeur de l'amitié d'une personne, qui lors d'un procès vous charge, est à relativiser. Alors que penser des témoignages de socialistes révolutionnaires qui sauvent leur peau en incriminant Fanny Kaplan, pour y enfoncer d'autres essayistes ? Sont-ils de simples balances dans cette cuisine, ou les apprentis cuistots de la gastronomie bolcheviste ? La recette ? Lorsqu'on manque d'un ingrédient pour une bonne macédoine, il suffit de l'inventer. C'est aussi ça la magie de la révolution.
La Macédoine est partout, même ici, chez nous.
Ces quelques mots de Boris Savinkov en 1909, faisant référence aux luttes en Roumélie ottomane, ouvrent pour la protivophilie des nouvelles perspectives anahistoriques. Du point de vue de la gastronomie bolcheviste, les ingrédients sont réunis pour faire une belle Macédoine. Rappelons que selon la biographie classique, F. Morjanov naît à Nice, dans une famille d'origine macédonienne, dont l'histoire croise celle du nihilisme politique des années 1900. Une petite communauté russe est présente dans la ville vers la fin du XIXe siècle et Alexandre Herzen, 1812-1870, l'un des théoriciens du populisme révolutionnaire en Russie, est enterré au cimetière du château. Boris Savinkov y séjourne alors qu'il y est en fuite. Il écrit en 1909 son nouveau roman, Le cheval blême, sous le pseudonyme de Ropchin. D'après les quelques travaux publiés à ce sujet, il semble que l'influence de la communauté russe soit importante sur la petite communauté macédonienne de Nice. Autant que la gastronomie macédonienne sur la niçoise. Autant que l'influence de Serge Netchaïev et du nihilisme en Russie sur l'anarchisme dans les Balkans, pour reprendre le sous-titre d'un texte inédit attribué à F. Merjanov.
L'énigme Floresco tente, loin des clichés, de démêler le rôle réel de Serge Netchaïev, le célèbre compagnon d'Albertine Autain, intitulé ainsi selon le pseudonyme que le compagnon de celle-ci utilisait lorsqu'il circulait dans les Balkans. Son initiale n'est pas sans rappeler celle qui précède Merjanov. Et si ce F était une référence à Floresco ? Une évocation discrète à celui qui refuse que les hominines de la volonté du peuple prennent le risque de venir le libérer après 10 ans de cachot, alors qu'elles ont prévu de tuer le tsar. Et finalement réussi. Serge Netchaïev meurt l'année suivante des mauvais traitements en protivo-tsarien heureux, le sourire aux lèvres, à penser que le tsar est vraiment mort. Mais peut-être que ce F est en fait une référence à Fanny Kaplan, une sorte de réhabilitation posthume d'un geste joyeux dans la vie de misère promise aux hominines, même avec de beaux discours. Dans les deux cas, ce choix de l'initiale F montre une volonté de s'inscrire dans la lignée des protivo-tsariens, une sorte de propagande par le F, comme disent les Serus.
Ces faits qui, de manière troublante, mettent en lien Nice, ces communautés révolutionnaires russo-macédoniennes du XIXe siècle, F. Merjanov, Boris Savinkov, Fanny Kaplan, l'ombre d'Albertine Autain et de son compagnon Serge Netchaïev, ainsi que quelques autres et la salade russe, sont, pour un esprit bolcheviste féru de ce type de Macédoine, un faisceau de preuves de l'implication directe ou indirecte de F. Merjanov dans l'assassinat du russe blanc Alexandre II en 1881 et la tentative contre le tsar rouge Vladimir Lénine Ulianov en 1918. Tout sur rien, le quatrième mardi du mois à 17h. Le vendredi à 9h30, 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Ganges-Vigan.